13. Hodges met un pied dans la cuisine des Hartsfield. L'odeur le frappe aussitôt. Elle était nue, mais bien présente. Son portable dans la main gauche et le colt de son père dans la droite, il se laisse guider par son odorat. D'abord dans le salon, vide, même si la télécommande et les catalogues éparpillés sur la table basse l'incitent à penser que le canapé est le repère de Mrs. Hartsfield, puis dans l'escalier. Au fur et à mesure qu'il monte les marches, l'odeur s'accentue. Pas encore une puanteur, mais ça en prend le chemin. Il y a un petit couloir à l'étage avec une porte à droite et deux à gauche. Il vérifie d'abord la pièce de droite. C'est une chambre d'amis qui n'a pas vu d'amis depuis longtemps. Elle est aussi stérile qu'une salle d'opération. Il fait un nouveau rapport à Jérôme avant d'ouvrir la première porte à gauche. C'est de là que provient l'odeur. Il respire un bon coup et entre rapidement, se collant au mur jusqu'à ce qu'il s'assure qu'il n'y a personne derrière la porte. Il ouvre la penderie, une porte qui se replie le long d'un gond central, et écarte les vêtements. Personne.
Jérôme, rapport.
Y a quelqu'un ?
Ben, en quelque sorte. Le dessus de lit a été remonté sur une forme qui ne trompe pas.
Attends un peu.
Il regarde sous le lit et ne voit rien d'autre qu'une paire de chaussons, une paire de tennis roses, une soquette blanche et quelques moutons de poussière. Il soulève le couvre-lit et voici la mère de Brady Hartsfield. Sa peau a une pâleur de cire, avec une faible nuance verte sous-jacente. Sa bouche est ouverte. Ses yeux, poussiéreux et vitreux, se sont enfoncés dans leurs orbites. Il soulève un bras, le fléchit légèrement, le laisse retomber. La rigueur cadavérique a disparu.
Écoute, Jérôme, j'ai trouvé Mrs. Hartsfield. Elle est morte.
Oh mon Dieu !
La voix d'adulte de Jérôme se brise sur le dernier mot.
Qu'est-ce que vous ?
Attends un peu.
Vous m'avez déjà dit ça.
Hodges pose son portable sur la table de chevet et baisse le couvre-lit jusqu'au pied de Mrs. Hartsfield. Elle porte un pyjama en soie bleue. Le haut est taché par ce qui ressemble à du vomi et un peu de sang, mais il n'y a aucune trace visible de blessure par balle ou arme blanche. Son visage est enflé, mais il n'y a ni marque de ligature ni ecchymose autour du cou. Le gonflement est dû à la lente marche de la mort vers la décomposition. Il remonte son haut de pyjama, juste assez pour voir son ventre. Il est légèrement enflé, comme son visage, mais c'est l'effet des gaz, selon lui. Il se penche pour regarder l'intérieur de sa bouche et voit ce qu'il s'attendait à voir. Des glaires coagulés sur la langue et dans les fosses entre les joues et les gencives. Elle a dû se saouler, régurgiter son dernier repas et partir comme une rockstar. Le sang provient peut-être de sa gorge ou d'un ulcère à l'estomac. Il reprend le téléphone et dit
« Il se peut qu'il l'ait empoisonnée, mais il me semble plutôt qu'elle a fait ça toute seule.
L'alcool ?
Probablement. Sans autopsie, difficile à dire.
Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ?
Ne bougez pas.
On n'appelle toujours pas la police ?
Pas encore.
Holly veut vous parler ?
Il y a une seconde de blanc au bout du fil, puis elle est en ligne, voix claire et ton calme. Plus calme que Jérôme, à vrai dire.
Elle s'appelle Deborah Hartsfield. Deborah avec un H.
Bon boulot. Repassez-moi, Jérôme.
Une seconde plus tard, Jérôme dit
« J'espère que vous savez ce que vous faites. »
« Non, » pense-t-il en vérifiant la salle de bain. « J'ai perdu la boule, et le seul moyen de la récupérer, c'est de laisser tomber tout ça. Et tu le sais. »
Mais il revoit Jeannet lui offrant son chapeau neuf, son chic borsalino de détective privé, et il sait qu'il ne peut pas, qu'il ne veut pas. La salle de bain est propre, ou à peu près. Il y a quelques cheveux dans le lavabo. Hodges les voit mais n'en tient pas compte. Il réfléchit à la différence cruciale entre une mort accidentelle et un meurtre. Un meurtre ne présagerait rien de bon, car c'est souvent par le meurtre de membres de la famille proche que les désaccès graves commencent leur dernière cavale. Si c'est un accident ou un suicide, il reste peut-être encore du temps. Brady pourrait bien être planqué par là, en train de décider quoi faire ensuite.
« Ce qui ressemble un peu trop à ce que je fais moi-même, » se dit Hodges. La dernière chambre à l'étage est celle de Brady. Le lit est défait. Le bureau est encombré de livres en pagaille, de science-fiction pour la plupart. Il y a un poster de Terminator sur le mur, avec Schwarzenegger portant des lunettes noires et arborant un fusil à éléphant futuriste. « Je reviendrai », se dit Hodges en le regardant. « Jérôme, rapport ?»«
Le type de l'autre côté de la rue nous mate toujours. Holly pense qu'on devrait entrer dans la maison. »«
Pas encore. »«
Quand ?»«
Quand je serai sûr que la voie est libre. »
Brady a sa propre salle de bain. Elle est aussi nickel qu'un casier de GI un jour d'inspection.
Hodges la contrôle vite fait, puis redescend l'escalier.
Il y a une petite alcôve au fond du salon, juste assez grande pour contenir un bureau sur lequel est posé un ordinateur portable. Un sac à main est suspendu par la bandoulière au dossier de la chaise. Sur le mur, une grande photo encadrée de la femme étendue à l'étage et de Brady Hartsfield à dos. Ils sont debout sur une plage quelconque. Ils se tiennent par les épaules, joue contre joue. Ils affichent des sourires à $1 million, identiques. Ils font plus petit copain, petite copine que mère et fils.
Hodges considère avec fascination Mr. Mercedes dans ses années de jeunesse. Il n'y a rien dans son visage qui suggère des tendances homicides, comme c'est pratiquement le cas à chaque fois. Il n'y a qu'une légère ressemblance entre eux, surtout dans la forme du nez et la couleur des cheveux. C'était une jolie femme, vraiment pas loin d'être belle. Mais Hodges parierait que le père de Brady n'était pas aussi gâté par la nature. Le garçon sur la photo paraît ordinaire, un gosse qu'on croiserait dans la rue sans le remarquer.
« C'est probablement ce qu'il préfère, » se dit Hodges, « l'homme invisible. »
Il retourne dans la cuisine et remarque cette fois une porte près de la cuisinière. Il l'ouvre et regarde les marches raides qui descendent dans l'obscurité. Conscient de dessiner une silhouette parfaite pour quiconque se trouverait en bas, Hodges s'écarte tout en cherchant l'interrupteur. Il le trouve et revient dans l'embrasure, son revolver braqué. Il voit un établi. Derrière, une étagère à hauteur de ceinture qui occupe toute la longueur du mur. Dessus, une rangée d'ordinateurs. Ça lui fait penser au centre de contrôle des missions spatiales de Cap Canaveral.
« Jérôme, rapport ?»
Sans attendre de réponse, il descend, le revolver dans une main, le portable dans l'autre, parfaitement conscient de la grotesque perversion de toutes les procédures judiciaires que cela représente. Et si Brady est planqué sous l'escalier armé de son propre revolver, prêt à lui exploser les chevilles ? Imagine qu'il ait piégé l'escalier. Il en est capable.
Ça, Hodges ne le sait que trop bien à présent.
Il ne trébuche sur aucun fil de détente et le sous-sol est désert. Il y a un placard dont la porte est ouverte, mais qui ne contient rien. Il ne voit que des étagères vides. Dans un coin, une pile de boîtes à chaussures. Elles aussi paraissent vides. Le message, se dit Hodges, c'est que soit Brady a tué sa mère, soit il est rentré à la maison et l'a trouvée morte. Dans tous les cas, il a décampé dans la foulée. S'il détenait des explosifs, ils étaient rangés sur ses étagères, vraisemblablement dans les boîtes à chaussures, et il les a emportés.
Hodges remonte au rez-de-chaussée. Il est temps de faire entrer ses nouveaux coéquipiers. Il ne veut pas les impliquer plus qu'ils ne le sont déjà, mais il y a tous ses ordinateurs en bas. Lui-même ne connaît que dalle aux ordinateurs.
« Passez par derrière, » dit-il. « La porte de la cuisine est ouverte. »